Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Louis a 22 ans, il habite à Strasbourg et a déjà effectué deux voyages à Cuba. C'est sur son avis que Franck Ferrand a choisi de nous parler aujourd'hui de Fidel Castro et de la révolution cubaine. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Voici ce que nous dit Louis. Les jeunes de ma génération n'ont plus conscience de ce qu'a été cette révolution cubaine. Ils m'ont dit, c'est comme si toi tu pensais encore à Robespierre. Hallucinant, conclut notre Louis, complètement outré. Eh bien, avec Jean-Pierre Clerc, nous allons rafraîchir un peu la mémoire de ces voyageurs et de tous les autres cet après-midi. À propos de mémoire à rafraîchir, je vous signale et je rappelle au plus grand nombre que le premier numéro de la saison de L'Ombre d'un doute sur France 3 aura lieu lundi prochain à 20h40 et il y sera question de la chute de Napoléon. C'était il y a exactement 200 ans. Nous suivrons Napoléon de l'île d'Elbe jusqu'à celle de Sainte-Hélène, nettement moins sympathique.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benjamin, posée sur la page Facebook de l'émission. Benjamin souhaite vous voir faire un retour aux origines sur le plastique.
Ah, les matières plastiques, elles font tellement partie de notre environnement aujourd'hui qu'on ne réalise même plus à quel point elles sont récentes. On va revivre tout ça. Voilà donc une bonne question. Pour le moment, je vous propose de nous rendre à Cuba sur les traces du leader Máximo. Leader avec un I, évidemment.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Cela fait 8 ans déjà que Fidel Castro a renoncé au pouvoir, 6 ans qu'il ne préside plus le Conseil des ministres, 3 ans qu'il n'est même plus en titre le secrétaire général du parti. En 2001, il avait désigné son frère comme successeur, ce petit frère à tous les sens du terme, Raúl Castro, qui donc maintenant dirige Cuba. Il n'empêche, de 1959 à 2006, Fidel Castro sera resté 47 ans, quasiment un demi-siècle, à la tête de cette île, la plus vaste des Grandes Antilles, l'une des toutes premières qui ait été conquise par Christophe Colomb dès octobre 1492, et qui du reste devait pendant très longtemps rester la perle des colonies espagnoles. Lorsqu'il accède au pouvoir, Castro a 33 ans. On a toujours l'image d'un Castro beaucoup plus jeune, mais non, c'est qu'en fait il y a eu une bonne décennie avant de lutte et de... On va y venir dans un tout petit instant. Il était né le 13 août 1926, du reste il y a une légère incertitude sur sa date, mais ce qu'il faut vous dire c'est qu'il y a pas mal d'incertitudes dès lors qu'on aborde la biographie de Fidel Castro, puisque en fait cet homme-là s'est constamment ingénié à arranger les choses, à écrire sa propre légende. Oh, vous savez, c'est un peu d'ailleurs le lot de la plupart des dictateurs. Son père, qui était galicien d'origine, s'était installé dans le sud de l'île, où il était devenu un riche agriculteur. Fidel avait passé 3 ans chez les frères Maristes et il a continué sa scolarité au collège Dolores de Santiago chez les jésuites. C'est très important, ça on va y venir tout à l'heure avec Jean-Pierre Clerc. Je pense que cette formation des jésuites, la casuistique d'une certaine manière, auront été essentielles dans la formation intellectuelle de cet homme-là. Quand ils observaient chez un élève des traits qui leur plaisaient, l'esprit de risque, de sacrifice, d'effort, ils cherchaient à l'encourager et non à le transformer en un efféminé, dit Fidel Castro lui-même lorsqu'il évoque cette formation chez les jésuites. On est peut-être en quelque sorte aux prémices de la pensée castriste. Les seuls initiateurs politiques de Castro auront donc été les jésuites, raconte Jean-Pierre Clerc. Manichéisme, populisme, anti-américanisme, ces attitudes ou thèmes devenus castristes étaient au cœur de l'enseignement des bons pères. Il entre à l'université de La Havane en 1945, donc si je calcule bien, il a 19 ans à ce moment-là. C'est là que va commencer vraiment sa carrière politique. C'est un paradoxe, mais pas tant que ça lorsqu'on sait à quoi ressemblait cette université de La Havane qui, à l'époque, était un petit peu, en dehors du reste de la vie politique. C'était un peu une zone franche d'une certaine manière et c'est la Fédération des étudiants, la FEU, qui gérait cette université en collaboration d'ailleurs avec le corps enseignant. Tout ça est assez original, on va y venir tout à l'heure. Les leaders de la fédération ont un réel pouvoir sur ce petit microcosme, mais c'est sans doute là encore une assez bonne formation politique. À l'université de La Havane, raconte Serge Raffi, on pratique ce qu'on appelle la politique du gatillo alegre, la gâchette facile. Depuis 10 ans à l'époque, la capitale connaît une guerre des bandes qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Vous voyez, quand je parlais de zone franche, on pourrait presque parler d'une zone de non-droit, pour employer un terme actuel. Une phrase malheureuse prononcée contre un adversaire au cours d'un meeting peut vous envoyer au cimetière dans l'heure qui suit. Étrange université où, des deux cours de philosophie sur l'humanisme, les leaders étudiants lancent des contrats sur la tête de leurs ennemis. C'est là alors que Fidel Castro va faire ses études de droit. Il est délégué de la fédération, vous l'avez bien compris. Il a du mal à choisir sa famille politique au départ, d'une certaine manière, mais il finit par se rallier à l'Union insurrectionnelle révolutionnaire, tout est dit, qui, ne nous y trompons pas, à l'époque est un parti anticommuniste. Ça aussi, il faudra que nous y revenions tout à l'heure. Il milite contre la politique du président Raúl San Martín et contre l'impérialisme américain qui très vite devient son espèce d'obsession. Un impérialisme qui s'étend à l'ensemble de l'Amérique latine, mais tout particulièrement à Cuba. Et il va ajuster son jugement, il va s'engager auprès d'Eddie Chibas, qui vient de créer le parti orthodoxe, qu'on appelle le Parti du Peuple Cubain, un parti nationaliste extrêmement radical. Ça, c'est ce qui va lancer véritablement la carrière de Fidel Castro. Le 10 mars 1952, à 2h30 du matin, événement absolument essentiel, sans lequel, je pense, on ne serait pas là à parler de ce sujet aujourd'hui. Fulgencio Batista s'empare du camp militaire de Columbia, qui était l'épicentre du commandement armé cubain. Il avait déjà été le chef de l'armée cubaine en 1933. Il avait exercé le pouvoir jusqu'en 1940, à la date à laquelle il était devenu président. Il avait instauré une politique totalement pro-américaine. On peut dire que Batista était l'agent littéral des Américains. Vous savez qu'il avait l'habitude de placer dans l'ensemble des pays d'Amérique centrale et latine des dictateurs à leur solde, d'une certaine manière. Donc voilà, ce Batista revient au pouvoir. Il était parti après avoir été battu donc en 1944 par le Parti révolutionnaire cubain, par San Martín. Il avait été un peu digéré son échec en Floride. Et le revoilà en 1952, qui revient à Cuba. Avec dans un premier temps l'idée de se faire réélire, seulement les sondages ne lui sont pas du tout favorables, alors il va aller nettement plus loin. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Fidel Castro, en octobre 48, a épousé Mirta Diaz Balart, qui est la sœur de Rafael Diaz Balart, un proche de Batista, futur ministre de l'Intérieur dans le prochain gouvernement de Batista. Quelque temps avant de passer à l'action, Batista avait même, semble-t-il, proposé à Castro de rejoindre ses rangs. Donc c'est intéressant de voir les hésitations, évidemment, les ambivalences des débuts de cette carrière politique. Proposition, je précise quand même, que Castro avait totalement rejeté, bien entendu. Donc, il critiquait totalement Batista dans tous les discours de la fédération, etc. Il dénonçait l'enrichissement personnel de Batista à l'époque où il était le président, donc de 40 à 44. Il lui reprochait d'être justement l'agent des Américains, etc. Il est notre fidèle Castro, si j'ose ainsi m'exprimer. Je sens déjà que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Fidel Castro est... devrais-je dire, au ce début d'année 1952, il est devenu bolchevique. Il est pour la lutte armée. Il est à la tête de toute une poignée de jeunes militants orthodoxes. Ils ont l'intention de constituer une organisation militaire que Castro va appeler le mouvement et dont l'objet est de pratiquer l'action directe et de pratiquer littéralement la guérilla. Alors il faut sélectionner les militants pour voir lesquels sont capables de devenir des combattants. Il faut les entraîner, etc., avec une certaine influence des mouvements de résistance qu'on a vu se manifester en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. On reviendra sur tout ça. Au-delà des dissensions politiques, il y a une guerre d'ego, bien entendu. Il faut vous dire que Batista a coupé l'herbe sous le pied de Castro, qui était en train de s'imposer par les urnes dans les élections parlementaires pour le parti orthodoxe. Donc, si vous voulez, le coup de force de Batista va priver Castro de ce qui devait être une victoire, en quelque sorte. Après son coup d'État, Batista va réduire en cendres, évidemment, toutes les tentatives parlementaires. Vous l'imaginez bien, les élections sont complètement annulées. Castro, à ce moment-là, rédige un manifeste pour s'insurger contre le coup d'État. Il était bon de chasser un gouvernement de malhonnêtes et d'assassins, dit-il. C'est ce que nous tentions de faire par la voie civile, avec l'appui de l'opinion et l'aide de la masse des citoyens. Mais quel droit avez-vous de le remplacer au nom des baïonnettes, encore des bottes? Votre coup est injustifiable, il n'est fondé sur nulle raison morale, sur aucune doctrine sociale ou politique.
Du titre Hasta Siempre de Carlos Piebla. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'accession au pouvoir de Fidel Castro.
Alors, on en est encore loin, évidemment, mais tout de même, à la fin de 1952, Fidel Castro, à près d'un millier de ses militants très actifs dans son fameux mouvement, la plupart des recrues de l'organisation clandestine, faut le dire, sont issus vraiment du petit peuple, des classes vraiment pauvres de la société cubaine, parce que Fidel Castro se méfie de la middle class ou des gens qui pourraient, bien qu'issus de classes favorisées, être révolutionnaires. Ils sont trop enclins aux états d'âme, d'une certaine manière. Le mouvement se révèle au public le 28 janvier 1953 à l'occasion d'un défilé qui commémore le centenaire de la naissance de José Martí, le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Castro s'est littéralement invité à ce défilé à la tête d'une troupe de quelques 500 hommes tout de même qui sont là et qui scandent le mot révolution. Et moi je ne parle pas espagnol, c'est une énorme lacune, j'en suis bien conscient, mais ça doit donner révolution, bien entendu. Le 24 mai 1953, les dirigeants des partis orthodoxes, l'opposition si vous voulez, se réunissent et Fidel, bien que représentant du parti orthodoxe, n'est pas convié. En fait, les leaders de l'opposition s'inquiètent de son radicalisme d'une certaine manière. Ils essaient de tenir le mouvement le plus à l'écart possible et ça, Castro ne le supporte pas. Être mis de côté, ça ne lui plaît pas du tout. Il se résout donc à les prendre de court, mais pour ce faire, il a besoin d'armes. Alors il commence à planifier l'assaut de la Moncada. Il s'agit en fait d'aller s'emparer de l'armurerie. Il y aura une équipe qui va essayer de récupérer les armes, une autre équipe un peu plus réduite qui devra aller prendre d'assaut une autre caserne à Bayamo sur la route de la Havane pour couper l'Oriente, c'est-à-dire la région sud de l'île, du reste du pays. Dans la foulée, les assaillants vont devoir mener un certain nombre d'actions extrêmement déterminées, faire sauter un pont à l'entrée de la ville pour interdire l'accès aux troupes de Batista, bien entendu. Voilà ce que nous dit Jean-Pierre Clerc. La date du 26 juillet n'a pas, donc on est ce 26 juillet 1953. Cette date du 26 juillet n'a pas été choisie au hasard. La nuit qui précède ce dimanche est la plus longue, la plus joyeuse, la plus animée de l'année, avec ses pétards, ses orchestres, ses farandoles. Le carnaval de Santiago est l'un des plus endiablés des tropiques. La bière aura coulé à flot pour les bidas aussi, et dès lors, aux petites heures, plus d'un cuvra. Et évidemment, ça devrait faciliter le travail des insurgés. Jusqu'au dernier moment, Castro a gardé son plan secret. Il ne le divulgue vraiment qu'à un tout petit nombre de militants du mouvement. Et pour les autres, ce voyage vers le sud se fait sous couvert de se rendre à un camp d'entraînement. C'est ce qu'on leur a dit en tout cas. À la veille de l'assaut, les futurs assaillants sont réunis à la ferme de Sibonet, proche de Santiago. Elle a été louée pour l'occasion, depuis déjà plus d'un mois, par un membre du mouvement. Ce qui fait qu'évidemment, tout ça a l'air, pour ceux qui n'avaient pas été mis dans le secret, a l'air improvisé. La surprise est totale, il n'y en a que quatre qui refusent de se rendre à la Moncada. Les autres, évidemment, sont enthousiastes. 121 hommes, 2 femmes qui se mettent en route dès l'aube. Les rôles ont été répartis, on s'embarque donc direction Santiago. Tout avait été prévu pour donner le top de l'opération à 5h15 du matin entre deux rondes de sentinelles. Mais ça, c'était compté sans les deux officiers que Fidel Castro allait croiser alors qu'il arrivait aux abords de la caserne. Castro fonce sur eux, raconte Serge Raffi, perd le contrôle du véhicule, heurte le trottoir. Pris de peur, les deux hommes pointent leur mitraillette sur la Buick. Fidel tente de redémarrer, mais le moteur cale. La Buick, immobilisée, bloque l'entrée de la caserne. Dans la manœuvre, un des hommes de la voiture conduite par Fidel, Gustavo Arcos, a été projeté hors du véhicule. Un soldat le met en joue. Un homme de la troisième voiture tire pour lui sauver la vie. Fin de l'effet de surprise, il n'aura duré que quelques secondes. On déclenche la sirène, tout Santiago sort de sa torpeur. Fidel Castro prend la fuite sans donner d'ordre au reste de ses troupes. Vous imaginez le chaos complètement général. Et de son côté, son frère, donc Raúl Castro, vient de prendre d'assaut le palais de justice. Quoi faire maintenant? Est-ce qu'il faut se rendre? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il faut continuer le combat? Certains vont aller se cacher à l'hôpital, on se cache dans les chambres, il y en a qui se déguisent en malades, hein, qui jouent les malades, d'autres partent seuls, errent dans les rues de Santiago, d'autres encore se rendent et sont abattus après avoir été évidemment molestés, tabassés à coups de crosse. Bilan des pertes, 2/3 des effectifs qui ne survivront pas à la fameuse attaque de la Moncada, près d'une 40aine de morts, 12 qui ne survivra pas ensuite à la torture qui va succéder à tout ça, et 30aine de prisonniers. Finalement, Castro se rend à la ferme de Siboney où se retrouve 40aine de survivants. Pour tout le monde, c'est un grand choc. Évidemment, il faut faire quelque chose. Et c'est là que Fidel Castro va convaincre la moitié de ceux qui sont là de partir pour le maquis dans la Sierra, dans la montagne. 4 jours de fuite, après quoi Castro sera interpellé, conduit à la prison de Santiago. Et au moment du procès, il choisit d'être son propre avocat, ce qui va lui permettre de terminer ainsi sa plaidoirie. « Je terminerai ma plaidoirie d'une manière peu commune à certains magistrats en ne demandant pas la clémence du tribunal. Comment pourrais-je le faire alors que mes compagnons subissent en ce moment une ignominieuse captivité sur l'île des Pins ? Je vous demande simplement la permission d'aller les rejoindre puisqu'il est normal que des hommes de valeur soient emprisonnés ou assassinés dans une république dirigée par un voleur ou par un criminel. »
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Fidel Castro.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'accession au pouvoir de Fidel Castro et à la révolution cubaine.
« Condamnez-moi », avait dit à ses juges Fidel Castro, « ça n'a aucune importance, l'histoire m'absoudra ». Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne va pas purger l'intégralité de sa peine. Il avait été condamné à 15 ans de détention sur la fameuse île des Pins, donc à quelques kilomètres du rivage cubain. Et dès 1955, Cuba étant secouée par de violentes protestations populaires, Batista décide d'amnistier les prisonniers politiques de l'île des Pins. Son but est un peu de calmer les esprits. Et Castro va en profiter. Alors, dans un premier temps, il s'exile au Mexique. Et tout de suite, son but, évidemment, est de préparer son retour. Il y a toujours le groupe armé de la Moncada, hein. Enfin c'est les survivants bien entendu, qui s'est un peu accru, qu'on a rebaptisé M26 en souvenir du fameux 26 juillet 1953. Et avant de quitter Cuba pour aller de nouveau, avant de quitter le Mexique, il confie à son camarade Frank Pais le soin d'organiser la résistance clandestine et puis il s'en va au Mexique. Voilà, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Castro a décidé qu'il allait débarquer avec 81 hommes à bord du Granma, un yacht de 18 mètres, qui normalement est fait pour 25 passagers, donc ils étaient un petit peu serrés là-dessus, vous imaginez bien. Le plan de Castro est de provoquer 2 mouvements simultanés. Une insurrection, donc, qui viendra, elle, de l'intérieur, qui sera animée par Frank Pais, doublée du débarquement à Las Coloradas, donc un petit peu plus à l'ouest de la troupe, enfin des 81 hommes et de Castro lui-même. Frank Pais lui confie ses doutes. La résistance qu'il doit mettre sur pied n'est pas encore assez au point pour permettre l'expédition. Qu'importe, Castro ne veut rien entendre. Le 25 novembre 1956, il quitte le port mexicain de Tuxpan. L'embarquement se fait dans la précipitation, la météo n'est pas de leur côté. Il y a même une tempête que le Granma va devoir essuyer. À bord, un certain Ernesto Guevara note dans ses carnets que le navire prit un air ridicule et tragique. Des hommes, visage angoissé, pressent leur estomac dans la main, la tête dans les seaux. vous avez bien compris, qui est cet Ernesto Guevara, qu'on appellera bientôt le Che, et qui a rencontré Castro à Mexico. Et aussitôt, ils se sont retrouvés autour d'une même vision de ce que devait être la révolution, d'une certaine manière. Ça durera peut-être pas, ça aussi on y reviendra. Un homme finit par passer par-dessus bord, à force, vous savez, ils sont tous là à se pencher pour vomir par-dessus le bastingage. Il y en a un, Juan Almeida, c'est Juan Almeida qui nous raconte. Fidel nous a dit la chose suivante, tant que nous n'aurons pas sauvé cet homme-là, nous ne bougerons pas d'ici. Ça a ému tout le monde et éveillé notre combativité. On s'est dit qu'avec cet homme, personne ne serait abandonné. On mettait pourtant en péril l'expédition, mais finalement, on l'a sauvé. Celui qui était tombé par-dessus bord a été rattrapé, a été repêché. La traversée va finalement durer 7 jours au lieu des 5 qui avaient été prévus, mais je vous dis, il y a eu cette tempête, etc. Et au moment où ils abordent sur l'île, l'insurrection de Frank Pais et de ses hommes a déjà été réprimée dans le sang. Vous pensez bien, 200 insurgés, ils n'ont pas fait très long feu face aux troupes de Batista qui en a profité pour décréter l'état d'urgence. Pour compléter le tableau de la débâcle, le capitaine du Granma s'est trompé dans ses calculs et au lieu de débarquer là où c'était prévu, à Las Coloradas, le bateau s'est retrouvé coincé dans la mangrove de Los Cayuelos. Le Che commentera l'événement en disant « un débarquement, non, ce fut un naufrage ». Et en effet, les 82 hommes auront toutes les peines du monde à débarquer dans ce marécage. La troupe épuisée va finalement atteindre la terre ferme. Mais dans leur fuite, ils ont rapidement été repérés, bien entendu, par des avions de l'armée cubaine. Les guérilleros sont aussitôt encerclés par des centaines de gardes ruraux armés de fusils, de mitrailleuses. Alors, on ne connaît pas le nombre exact de victimes directes, mais il y aura une trentaine de prisonniers et la moitié de ces prisonniers sera exécutée. Le reste des survivants se disperse comme il peut dans la Sierra et sur la demi-douzaine de groupes qui se forment, seuls 4 pourront continuer la lutte aux côtés de Castro. Parmi eux, le fameux Raúl Castro, hein, son frère, et puis Che Guevara, bien entendu. À 1000 km de là, à La Havane, le président n'en revient pas, nous dit Serge Raffi. Fidel le Diabolito vient de lui rendre un inestimable service. Grâce à ses rodomontades guerrières aux effets certes désastreux, Batista a fini par convaincre les Américains de l'armer plus sérieusement. Le président Eisenhower accepte même de lui livrer sur le champ 3 patrouilleurs ultra-rapides équipés de radars et d'une puissante artillerie, une escadrille d'avions à réaction, de l'artillerie de campagne, une grande quantité d'armes destinées aux troupes d'infanterie. Finalement, en faisant ces coups de force mal préparés et qui aboutissent sur à chaque fois des désastres plus terribles, la seule chose qu'aura réussi Fidel Castro, c'est de convaincre les Américains de la nécessité de donner et de prêter main forte à Batista. C'est le début néanmoins d'une guérilla, qui va durer 25 mois et qui va déboucher, elle, sur ce qu'on a coutume d'appeler la révolution cubaine. Bonjour Jean-Pierre Clerc, nous avons Bonjour. Vu les tout débuts de la carrière politique, si l'on peut dire, la carrière de guérillero, de révolutionnaire de Fidel Castro. Avec vous, on va voir la suite, on va évoquer la révolution elle-même et puis tout ce qui est venu par la suite et qui va durer.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Fidel Castro, avec votre invité Jean-Pierre Clerc, journaliste et écrivain, auteur notamment de Fidel Castro, une vie aux éditions L'Archipel.
Les lecteurs du Monde, évidemment, connaissent très bien la signature de Jean-Pierre Clerc. Vous avez passé combien de temps au service de ce grand journal, Jean-Pierre Clerc ?
Une petite trentaine d'années, mais c'était il y a déjà pas mal d'années. Oui, donc non. Ils ont dû m'oublier, bien sûr.
Ah ben moi, je ne vous ai pas oublié, pour tout vous dire.
Merci.
Alors, vous connaissez bien Cuba, vous connaissez ce régime castriste, alors on verra on essaiera d'en analyser tous les dégâts, si je puis dire. Mais revenons à ces événements historiques de 1956, 53, 56. On peut dire d'une certaine manière que Castro a raté totalement ses premières tentatives d'insurrection et de putsch.
C'est un fait, mais enfin, il n'a pas raté la dernière, qui était la guérilla dans la Sierra Maestra, qui a duré, comme vous l'avez dit, 2 ans et quelques jours. Et disons que lorsque le 1er janvier 1959, ses troupes entrent dans Santiago, qui est la grande ville de l'Est cubain, la deuxième ville de Cuba, on peut considérer que les choses sont faites, puisque dans la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire du 31 décembre au 1er janvier, Batista, considérant que les choses sont perdues pour lui, lui s'est enfui à Saint-Domingue.
Il a pris la fuite, il a laissé les choses vacantes.
Il a laissé les choses vacantes, il est parti avec un peu la fleur de son régime, fleur un peu fanée, il est vrai. Et donc, au fond, tout est à construire et surtout, tout est à saisir, je dirais.
Pour revenir un instant sur la caserne de la Moncalda, cette tentative complètement ratée, on va dire, du 26 juillet 1953, comment expliquer que c'était un tel désastre ? Castro n'était pas un bon stratège, il ne savait pas comment s'y prendre ?
Je crois que c'était un impatient, je crois que c'est un homme bouillant, mais en même temps, on peut dire aussi que c'est un homme qui a appris, puisque il est clair que la stratégie, la tactique, disons, militaire et la stratégie politico-militaire qu'il a utilisée pendant les deux années entre son débarquement et la victoire dans la guérilla, ont montré qu'il avait à la fois un talent militaire et un talent politique.
Comment expliquer que Batista l'ait laissé sortir après l'avoir laissé condamner à 15 ans de travaux forcés ? Il l'amnistie. On n'avait donc pas conscience du caractère dangereux de ce bonhomme.
Oui, je crois qu'il ne le prenait pas tout à fait au sérieux, parce qu'au fond, Castro, il faut quand même dire que c'était une grande gueule, quoi, jusqu'à l'époque. Ensuite, il l'a toujours été un peu, mais il a un peu discipliné les choses. Mais enfin, c'était quand même toujours quelqu'un dont on pensait qu'il était peut-être plus fort en parole qu'en action. D'ailleurs, ses échecs successifs le démontraient. Bon, par ailleurs, il faut aussi dire une chose, c'est que le régime de Batista était, disons... Alors évidemment, je sais que là, je vais heurter pas mal de gens, mais il était vraisemblablement moins dur que le régime que Fidel Castro a établi ensuite.
Mais ça n'est pas très difficile en même temps.
Ce qui n'est pas très difficile. Enfin bon, là, il y aurait des nuances à apporter, mais enfin, en tout cas, c'est un petit peu cela que l'on peut dire. Et puis par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre exposé, il est clair qu'il y avait un bouillonnement qui montait. Je veux dire, cet homme, Batista, qui avait été d'abord l'auteur d'un coup d'État en 1933, puis un président tout à fait constitutionnel, et d'ailleurs...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait.
Oui, c'est ça. Et qui avait d'ailleurs été un bon président, je dirais. Et alors, curieusement, qui avait gouverné avec des ministres communistes. Ça, c'est des choses qu'effectivement, qu'il importe toujours de rappeler. Donc, une certaine tension politique montait. Écoutez, il a fait ce qu'il estimait devoir faire, c'est-à-dire libérer les prisonniers de la Moncada et notamment Fidel Castro, en le laissant en principe libre de faire ce qu'il voulait à Cuba. Mais on s'est bien aperçu que c'était pas possible parce que Castro voulait en faire trop. Donc, alors, d'où l'exil au Mexique.
Là, l'espèce de fièvre révolutionnaire de Fidel Castro doit bien s'ancrer sur quelque chose. La réalité sociale et économique de Cuba avant 1958-59 était si désastreuse que ça ?
Alors, si vous voulez, là, effectivement, il faut revenir un petit peu sur un certain nombre d'affirmations. Si vous voulez, Cuba était un pays où le revenu national par habitant était bon. Il était l'un des 3 ou 4 meilleurs de l'Amérique latine. Simplement, et Dieu sait si ça aurait été important pour la suite, il y avait de 500 à 600 000 coupeurs de canne, dont la condition...
Ça, c'est le prolétariat, on va dire.
Le prolétariat, dont la condition économique et sociale était assez désastreuse, et qui, de surcroît, était très souvent employés par des compagnies américaines, ce qui les rendait évidemment extraordinairement vulnérables à un certain nombre de propagandes ou de constatations politiques.
500 000 très pauvres sur une population
de 6 millions à peu près,
c'est-à-dire
10 millions. Donc effectivement, on peut considérer que c'est pour eux, dans un premier temps, que la révolution a été faite.
Cette révolution, c'est une révolution armée, bien entendu, militaire. Il y a cette guérilla qui dure pendant longtemps. Quelle a été l'attitude de l'armée face justement à ces mouvements castriste, disons.
Si vous voulez, l'armée, elle était batistienne pour la bonne raison que Batista avait d'abord été, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1933, il était, alors au départ, ce qui est pittoresque, c'est qu'il était sergent, mais évidemment, quelques jours plus tard, il s'est retrouvé général, et donc chef de l'armée cubaine. Et finalement, comme c'était un homme habile, il a toujours réussi à tenir jusqu'au bout l'armée dans sa main, si vous voulez. Et ça n'est que dans les derniers mois de l'année 1958 qu'on a commencé à voir des défections dans les forces armées cubaines, mais sinon l'armée était batistienne.
On a quand même, dans les années qui ont suivi la fameuse révolution et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, En Europe, notamment, on regardait cette révolution d'un œil assez bienveillant. Est-ce que c'était par anti-américanisme? Est-ce que c'était par goût du romantisme des grands discours de celui qui ne s'appelait pas encore tout à fait le leader Maximo?
Bah écoutez, il y a un peu de tout ça, si vous voulez. Il y a un épisode, par exemple, qui est je vais le citer parce que c'est la première fois que j'étais très jeune à l'époque. C'est la première fois que j'entendais parler de Fidel Castro, ou plutôt du mouvement révolutionnaire à Cuba. En février 1957 ou 58, je crois que c'est 57, ils avaient séquestré pour deux jours Manuel Fangio, qui aujourd'hui est un nom qui ne dit plus grand chose, mais qui était à l'époque le grand champion automobile mondial. Il se trouve qu'il y avait un rallye ou du moins une course automobile à Cuba, et donc ils ont séquestré Fangio. Donc d'un seul coup, ça a effectivement été une publicité absolument extraordinaire. Bon, d'autre part, Fidel Castro...
Mais ça aurait dû le rendre antipathique, et c'est pas ce qui s'est passé.
Ah non, pas du tout, parce qu'au bout de deux jours, on a relâché Fangio. Non, je veux dire...
Restait bon enfant d'apparence, en tout cas.
Voilà, exactement. Ça restait bon enfant d'apparence. Les discours de Castro étaient à la fois, bien entendu, politiquement structuré et militairement fort, mais il y avait tout ce discours social qui allait avec, et donc tout cela était en Europe sympathique, d'autant plus que ça donnait, une nouvelle coloration à la notion de révolution qui, il faut le dire, était devenue un petit peu rance en Union soviétique, voire moins en Chine, mais tout de même la Chine était plus exotique.
Redonner des couleurs à la révolution, d'une certaine manière.
À la notion de révolution.
Les Américains jouent un rôle absolument décisif dans cette affaire. Et d'ailleurs, après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, ils vont faire cette tentative complètement désastreuse de reconquête, la fameuse affaire de la baie des cochons, sous la présidence de Kennedy.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que les Américains, pendant quelques semaines, on ne savait pas trop quoi penser. Enfin, je veux dire, bon, ils n'étaient pas pour, mais ils n'étaient pas contre non plus. Ils étaient prêts à voir. Et puis, très vite, si vous voulez, dans un premier temps,
ils étaient prêts à s'arranger avec celui qui voudrait bien, d'ailleurs. C'est souvent ce qui se passe.
Je pense que Castro n'était pas tout à fait prêt à s'arranger. Et d'autre part, les premières mesures de Castro, par exemple, il y a tout de même eu un certain nombre de centaines d'anciens batistiens qui ont été fusillés, souvent dans des conditions un petit peu sortant de l'habitude, enfin du droit habituel, encore que Batista n'était pas un champion des droits de l'homme. Et donc l'opinion américaine, qui au début était quand même plutôt favorable, parce qu'il y avait le côté Robin des Bois, enfin si vous voulez, le côté je redistribue la richesse aux pauvres que je pique aux riches, mais très vite l'Amérique s'est retournée, d'autant plus qu'il y a eu une sorte d'escalade qui a fait que Castro, très vite, par rapport à l'économie, l'a nationalisé, et comme une partie de l'économie, notamment des grosses sociétés, était américaine, finalement, Castro nationalise des biens américains et en précisant bien qu'il ne payera pas, qu'il payera en monnaie de singe.
Il va gravement contre les intérêts économiques américains, contre les intérêts stratégiques aussi. Ça va être la fameuse crise des fusées dès l'année suivante, 1962, lorsque c'est Khrushchev qui est au pouvoir à l'époque au Kremlin, lorsque Castro propose aux soviétiques de se servir de Cuba comme d'une espèce de base pour installer des missiles contre les États-Unis, aux portes même des États-Unis.
Oui, tout à fait. Et les deux choses, la baie des cochons et l'affaire des fusées sont liées. Pourquoi ? Parce que Castro a bel et bien compris, avec l'affaire de la baie des cochons, que les États-Unis ne le laisseraient pas tranquille, ne le laisseraient pas en paix, puisque ce qu'il faut préciser, c'est que ce débarquement d'anticastristes à la baie des cochons a été financé, entraîné, appuyé, transporté par la CIA américaine. Évidemment. Donc effectivement, les choses étaient claires.
Alors vous dites que deux événements sont liés, l'affaire de la baie des cochons et la crise des fusées de 1962. On pourrait presque ajouter un troisième événement, c'est l'assassinat en novembre 1963 du président Kennedy lui-même. Est-ce que les Cubains ont trempé dans cette affaire ? On l'a dit beaucoup.
On l'a dit, mais personnellement, je ne le pense pas, tout simplement parce qu'ayant beaucoup cherché et surtout ayant rassemblé un petit peu les éléments venus d'Amérique sur le sujet, j'ai constaté qu'il n'y avait rien qui tenait véritablement la route sur le sujet. Donc ça, non.
Alors on va parler bien sûr des compagnons de route de Fidel Castro, on va voir comment son régime a évolué. Ce que j'aimerais peut-être que nous disions tout de suite, que vous essayiez de cerner pour nous, c'est l'inspiration de Fidel Castro. Quel est son modèle, si je puis dire? Je disais l'autre jour de Martin Luther King qu'il avait comme modèle Gandhi. Et une fois qu'on sait ça, j'ai envie de dire que toute son action se lie d'une façon beaucoup plus évidente. Quel est le modèle de Castro? C'est Lénine, par exemple? Je ne sais pas. Qui est-il?
Non, je ne crois absolument pas. Je ne pense pas que Castro lui-même avait un modèle aussi ferme que celui que vous venez de désigner à propos de Martin Luther King. Simplement, il avait auprès de lui son jeune frère, donc Raoul, que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui, lui, était très clairement dans les jeunesses communistes de Cuba. Alors, est-ce qu'il y a eu cette influence? Oui, mais elle n'est pas arrivée tout de suite. Moi, je crois que le modèle de Castro, c'était Fidel Castro. Je pense que le modèle de Castro, c'était un petit peu le prince de Machiavel.
Ah oui, je pense.
Je pense que finalement, il pouvait même y avoir une sorte d'influence de Mussolini, à certains égards, disons, en gros, de ceux qu'en Amérique latine, on appelle les caudillos. Il s'est toujours défendu, naturellement, de ce modèle qui, évidemment, ne correspond pas à l'image, disons, politico-sociale qu'il veut donner de lui, mais je pense que c'était très prégnant dans son esprit.
C'est très intéressant parce que nous parlons d'événements relativement ancien déjà, mais on est obligé de continuer à en parler au présent, puisque à l'heure où nous parlons, Fidel Castro est toujours de ce monde.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Fidel Castro est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Jean-Pierre Clerc, journaliste et écrivain, auteur notamment de Fidel Castro, une vie aux éditions L'Archipel.
Oui, et c'est un volume, cette vie de Fidel Castro que vous nous racontez quasiment comme la vie d'un aventurier aussi. Il y a cette dimension-là dans le personnage, incontestablement, Jean-Pierre Clerc.
Ah oui, je crois. C'est un homme, disons, qui a au fond inventé un petit peu les choses au fur et à mesure, du moins dans les premières années sur le plan de la politique intérieure. Ensuite, il s'est assez nettement aligné sur le modèle soviétique. Il ne pouvait pas faire autrement. L'économie était à volo. Mais ensuite, il est devenu aussi un aventurier sur le plan international. Lorsque, en 1975, évidemment, là, on franchit des étapes considérables. En 1975, ses troupes ont débarqué en Angola pour sauver le régime marxiste face, disons, à une guérilla, celle de l'UNITA, qui était nettement plus nationaliste et moins marxiste. Et aussi face à l'Union sud-africaine, qui évidemment, on voyait d'un mauvais œil ce pouvoir qui était en train de s'établir.
Ce qui veut dire qu'indirectement, presque directement, Fidel Castro aura joué un rôle dans la chute de l'apartheid d'une certaine manière. En tout cas, il aura fait suffisamment pression sur l'Afrique du Sud via l'Angola.
Alors ça, c'est absolument ma thèse. Je dirais que si Fidel Castro sera rappelé encore dans la mémoire des hommes dans des décennies ou peut-être davantage, c'est pour la contribution que ses troupes auront, via l'Angola, apportée à secouer et marteler le régime de l'Union sud-africaine et le régime d'apartheid. D'ailleurs, Nelson Mandela ne s'y est pas trompé, qui pratiquement dès sa sortie de prison a réservé son premier voyage à l'étranger, avant même d'être président, à La Havane pour remercier Cuba du soutien que, indirectement, il l'avait apporté à la chute de l'apartheid.
C'est un aspect inattendu, mais fondamental, et c'est très intéressant tout ce que vous dites à ce propos. Revenons sur les personnalités de l'époque. Alors, j'ai dit un mot de Che Guevara. C'est une rencontre un peu fortuite. On a beaucoup accusé, nous avions fait une émission à ce sujet d'ailleurs, on a beaucoup accusé Fidel Castro d'avoir poussé Che Guevara à la catastrophe, de l'avoir lui-même livré à ses assassins. Vous n'y croyez pas, vous, à ça?
Non, c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, il y a eu un différend fondamental entre Fidel Castro et Guevara.
Guevara qui avait quand même été l'un des responsables de l'économie cubaine.
Ah oui, tout à fait. C'est presque un gag, si vous voulez.
Ouais,
il avait été le directeur ou président, je ne sais plus, je crois, président de la banque cubaine. Bon, je crois que Guevara était médecin, mais c'est vraisemblablement un bon médecin. Enfin, en matière d'économie, il disait souvent que, en gros, l'économie, ça consiste à faire passer quelque chose de sa poche droite à sa poche gauche, quoi, si vous voulez. Donc, en gros, ensuite, il avait été ministre de l'Industrie et ça avait été totalement catastrophique parce que, si vous voulez, sa thèse centrale, c'était qu'il fallait que Cuba cesse avec ce qu'il appelait la tyrannie du sucre, autrement dit la seule production exportatrice de Cuba, ce qui est d'ailleurs finalement progressivement arrivé, si vous voulez. Donc voilà pour Guevara. Et si vous voulez, il a eu un rôle économique, et ensuite comme il était à peu près intenable et surtout pas très compétent dans ces domaines, Fidel Castro l'avait transformé en une sorte d'ambassadeur at large, ambassadeur international.
Il était peut-être un peu trop charismatique pour ne pas faire d'ombre au leader de la révolution cubaine.
Oui, ça j'y crois pas trop non plus, parce que Castro était quand même très bien ancré, et n'oubliez pas que Guevara était argentin, donc un argentin ne pouvait pas faire de l'ombre à un cubain à Cuba, si vous voulez. Mais par contre, Guevara avait des idées beaucoup plus radicales que Castro sur le plan international, et en particulier, Guevara pensait que l'Union soviétique ne faisait pas grand-chose pour aider le tiers-monde. Et il l'a dit dans une conférence à Alger au printemps 1965, disant en gros qu'il fallait mettre sur le même plan États-Unis et URSS sur le plan par rapport au tiers-monde. Et ça, évidemment, Castro ne pouvait pas le supporter, puisque l'URSS était le principal point d'appui économique de la révolution cubaine.
Évidemment, là, il y avait une opposition diamétrale. Vous ne pensez pas pour autant que Castro soit responsable, en quelque sorte, de la mort de Che Guevara?
Non, je ne vais pas jusque-là. Simplement, il n'y avait plus de place pour eux deux. Donc, ils se sont entendus dans la dignité à maintenir de Guevara. Donc, Guevara, dans un premier temps, était faire la guérilla dans l'Afrique des Grands Lacs. Ça a été là une véritable catastrophe. Ensuite, il est revenu quelque temps incognito à Cuba. Puis ensuite, il a été expédié en Amérique latine, où pour le destin que l'on connaît, c'est-à-dire sa mort encerclé par des rangers boliviens et aidé par des Américains le 8 octobre 1957.
Je ne sais pas si on a le temps, ou alors en quelques mots, d'évoquer le rôle de Cuba et de Castro dans la chute du président Allende au Chili.
Écoutez, moi je crois qu'il n'y a pas de rôle de Cuba et dans la chute d'Allende. Je pense simplement, si vous voulez, que lorsque Allende a été élu, très vite Fidel Castro débarque à Santiago du Chili.
Il est chez lui.
Il est chez lui et il y reste 40 jours, ce qui est quand même stupéfiant. Essayez d'imaginer une visite d'État de 40 jours. Alors il va du nord au sud, il tient des meetings, il donne un petit peu des conseils appuyés au président Allende, de telle sorte qu'il contribue très tôt dans cette histoire du Chili de socialiste de Salvador Allende, il contribue très très vite à radicaliser la droite et à effrayer encore un petit peu plus les États-Unis, pour qui le modèle politique d'Allende, c'est-à-dire ce qu'il appelait le socialisme dans la liberté, n'était pas une très bonne nouvelle pour les États-Unis, qui, eux, préféraient quand même le libéralisme dans la liberté.
Je me rappelle, à l'époque où j'étais enfant, on voyait des reportages à la télé. Ce qu'adoraient les journalistes, c'était aller rencontrer Fidel Castro, le suivre dans les rues de la Havane, etc. Et alors, on avait l'impression, effectivement, d'une espèce de grand frère très sympathique. Tout ça avait l'air d'être assez bien mis en scène, évidemment, mais d'une espèce de communion avec la population, quasiment une absence de hiérarchie, etc. Et d'une certaine manière, ça bluffait une certaine partie de l'opinion occidentale, tout ça. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était fabriqué, d'après vous?
Non, je crois qu'il est absolument évident que pendant des décennies, Fidel Castro a eu un appui, enfin presque une sorte de dévotion dans toute une partie, et peut-être même dans l'essentiel de la population cubaine. Alors ensuite, évidemment, les choses au bout de 30 ans, 40 ans, presque 50, les choses naturellement ont le temps de s'apaiser, voire de s'abolir. Mais il est hors de doute qu'il a eu un très très grand prestige. Alors simplement, comme c'est un homme très politique, inutile de dire que quand même il était très très bien entouré, très bien protégé. Par exemple, le 14 juillet, il honorait l'ambassade de France le 14 juillet pour la fête nationale, mais contrairement à tous usages diplomatiques, sa garde investissait l'ambassade de France pour vérifier qu'il n'y avait pas quelques terroristes dans un coin, et pour vérifier aussi que les petits fours n'étaient pas empoisonnés, si vous voulez. C'était contraire à tous les usages diplomatiques. Mais si l'ambassadeur disait non, Castro ne venait pas, et le 14 juillet était raté.
Oui, c'est ça. Castro est une sorte, disons-le, de star de la politique du XXe siècle. Il y avait un culte de la personnalité très important. D'ailleurs, un de nos auditeurs nous dit que le terme « leader maximo » est inconnu à Cuba.
Oui, c'est exact. Il n'est pas né à Cuba, parce qu'effectivement, le terme « leader maximo » a quand même un côté, j'allais dire, post-mussolinien, qui ne collerait pas avec l'image que Castro veut donner de lui-même. C'est tout à fait exact. C'est un terme qui est né dans les médias occidentaux, mais qui a fini ni tout de même par être très connu.
En tout cas, l'immense célébrité de Fidel Castro a rendu son pays immensément célèbre, ça c'est incontestable. Ça n'est pas pourtant qu'il l'a rendu riche, loin de là. On peut parler d'un désastre sur un plan économique, je pense qu'on peut dire ça.
Oui, bah, si vous voulez, sur le plan de la notoriété, il est évident que Cuba était une île absolument insignifiante et non avenue. On la connaissait pour le rhum, la salsa, ou peut-être la samba, je sais plus, les cigares, bien entendu, quelques bons musiciens, Pérez Prado, un bon boxeur qui s'appelait Kid Chocolate, etc. Mais il est évident que les péripéties, d'une part, de la révolution cubaine elle-même et de la relance qu'elle a donnée, la notion de révolution, ont joué un rôle dans la notoriété de Cuba. Et d'autre part, ce qui s'est passé en Afrique entre 1975 et 1990, c'est-à-dire l'action de troupes cubaines pour propager enfin des régimes de gauche, a été très importante. Alors maintenant, pour répondre vraiment à votre question, il est clair que ça a été une catastrophe économique et on le voit aujourd'hui où le salaire moyen à Cuba est de 15 dollars, c'est-à-dire quelque chose comme 12 euros, si vous voulez, par mois. C'est hallucinant, quoi. Alors on va dire, oui, mais en plus, il y a la sécurité sociale et en plus c'est l'éducation gratuite. Ben, je répondrais, ben oui, ben en France aussi, quoi.
Oui. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on aborde comme ça un sujet d'histoire ultra contemporaine, les réactions des auditeurs sont très très différentes, pour pas dire opposées. Je vous donne un exemple. D'un côté, nous avons Bruno qui me taxe de, enfin qui dit que je suis victime de désinformation, etc., et qui voudrait qu'on dénonce davantage tous les abus de ce régime dont je pense pas que nous ayons fait l'apologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis d'un autre côté, Frédéric qui dit mais n'oubliez pas qu'à l'époque les trois quarts, donc à l'époque de Batista, les trois quarts de la population n'avaient droit ni à l'éducation ni à la santé, que la mafia italo-américaine avait complètement corrompu la Havane.
Vous voyez, il y a bien sûr... faux pour la première partie de l'affirmation, vrai pour la seconde partie de la dernière
pour ce
affirmation.
Qui est de la corruption, oui.
Ah oui oui, mais bien sûr, la mafia avait installé un peu son cul. Avait transporté son QG des États-Unis à la Havane et on disait que la Havane était le bordel des Amériques.
Un mot peut-être sur les deux visites papales, la visite de Jean-Paul II et celle de Benoît XVI, c'est assez inattendu dans un des derniers pays communistes de la planète.
Oui, en même temps, ça peut se comprendre parce que Castro, disons, a toujours quand même été en quête, disons, d'élargir un petit peu ses soutiens par-delà, notamment à partir des années 90, lorsque l'URSS s'est désintégré. Donc, il s'est retrouvé véritablement très, très nu. Donc, il a recherché d'autres soutiens. Et par ailleurs, il est clair que l'Église catholique était consciente, même si l'Église cubaine n'a jamais été une très grande force historique, l'Église catholique était consciente que ça pouvait être dans une société civile étroitement contrôlée par un parti unique, ça pouvait constituer une sorte d'espace un petit peu de respiration pour la société civile.
C'est aujourd'hui le frère de Fidel Castro, Raoul, qui donc est aux commandes. Il a 83 ans, lui,
84, oui.
Ou même 84. Il est d'ailleurs, il lui ressemble pas du tout. Hein, entre nous, soit dit, il est beaucoup plus petit. On l'appelle le Chinois sur place, d'ailleurs.
C'est... Oui, ben écoutez, il est à peu près certain que Madame Castro mère a fauté avec un voilà. Monsieur. Et voilà, ont, aujourd'hui, oui. Ça paraît être très d'une grande banalité.
Ils ont la même mère, mais pas le même père.
Voilà, dans une société machiste comme l'était celle de Cuba, c'était certainement quelque chose de très stupéfiant.
Ce Raoul, on a vu à quel point il a été présent dans toute l'histoire de son frère, hein, depuis le tout début. Il n'a été nommé qu'en 2001 comme successeur officiel, mais il était déjà, depuis longtemps, très proche.
Oui, non, c'est plus que ça. Si vous voulez, dès octobre 1959, c'est-à-dire 8 mois après la victoire, Raoul Castro est nommé ministre des Forces armées, c'est-à-dire une fois qu'on a éliminé les modérés, que dans un premier temps, il a fallu comment dirais-je, amadouer. Et je rectifie, si vous me permettez, oui. Dès cette période, Raoul est désigné, non pas constitutionnellement, mais disons dans les faits, voilà. Il est désigné comme le successeur. Oui. Donc Raoul aura été, c'est mieux que Charles d'Angleterre, ou à peu près pareil, il aura été le successeur pendant une cinquantaine d'années, mais ça marche.
À la grande différence du prince Charles, un successeur très actif dans la conduite de la politique.
Ah oui, tout à fait, parce que si vous voulez, il était ministre des Forces armées, puis ensuite, à l'occasion en 1989 d'une certaine affaire Ochoa, il a été ministre de l'Intérieur et responsable de la totalité des services de renseignement. Donc il était absolument le bras droit de Fidel Castro pour tout ce qui était la sécurité.
Merci beaucoup Jean-Pierre Clerc. Je rappelle le titre de votre biographie, Fidel Castro, une vie, c'est aux éditions de l'Archipel. Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benjamin sur les origines du plastique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, cet après-midi à la question de Benjamin. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait que vous reveniez sur l'invention du plastique.
Regardez, rien qu'autour de nous dans ce studio, Céline, c'est complètement fou. Tout, quasiment tout. Je crois qu'on doit pouvoir dire que quasiment tout est en plastique. C'est tout à fait incroyable. Pendant très longtemps, pendant des siècles, vous savez bien qu'on utilisait toutes sortes d'autres matériaux. Le bois, mais qui avait l'inconvénient d'être inflammable et de résister assez mal à l'eau. Le métal, alors qu'il lui avait bien d'autres défauts. Le poil, souvent ça rouille, le métal ça s'oxyde. L'ivoire par exemple, mais alors là on est dans des produits très précieux, très rares, très difficiles. Donc le plastique va remédier à tout ça, si je puis dire. Dans l'Antiquité, ça, il faut savoir qu'on avait déjà fait l'expérience d'une toute première matière plastique, naturelle évidemment, de la colle à base de gélatine qui permettait notamment de fabriquer des petits meubles, des choses comme ça. Au 15e siècle, avec la découverte du caoutchouc par les conquistadors, alors là d'un seul coup, on va se mettre à fabriquer des objets, je pense à des balles, des petits récipients, etc., qui sont d'une matière artificielle et malléable, et plastique au sens propre. Évidemment, c'est la découverte de la cellulose qui va nous faire entrer dans une nouvelle ère avec l'anglais Parkes qui invente la parkésine, le premier polymère artificiel. Il sera présenté à l'exposition universelle de Londres en 1862. Alors là, ça a toutes les qualités, ça évidemment, c'est résistant, c'est plastique, c'est flexible, enfin ça a toutes les qualités, notamment pour des industriels, vous imaginez. Et un an plus tard, le scientifique américain Hayat emboîte le pas de Parkes en créant le celluloïde. Il se penche sur la fabrication sous l'impulsion d'un concours lancé par Phelan et Colander, les fabricants de billards, qui offraient une récompense de $10,000 à qui pourrait fabriquer des boules de billard qui ne seraient pas en ivoire. Voilà comment c'est né tout ça. Ensuite, vous savez bien que tous les dérivés qui vont exister et l'explosion des matières plastiques dans les années 50, avec, il ne faut surtout pas oublier de citer, cette petite commune de Lens qui, en France, est la capitale du plastique, bien entendu. C'est de là que tout vient, si je puis dire. C'est Oyonnax, aux portes du Jura, bien entendu. Au cœur du présent, Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck, aujourd'hui nous recevons Daniel Cohn-Bendit qui publie L'humeur de Dany aux éditions Robert Laffont. Et devinez quoi ? Eh bien c'est une compilation de ses billets du matin sur Europe 1.
Merci beaucoup. Eh bien moi je suis aussi le matin, mais encore plus tôt que Dany Cohn-Bendit, à 6h25 chez Thomas Soto tous les jours. Et je vous dis à demain Céline.
À demain Franck.